Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute pour ce 7e numéro d'Entreprendre Autrement, l'émission sur l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes. Une émission exceptionnelle aujourd'hui car nous allons revenir avec nos invités sur l'actualité associative et la mobilisation qui a débuté dès le mois de juin 2016. Dans un contexte particulièrement incertain concernant l'évolution des collectivités et du rôle de l'État, les associations s'organisent. Acteurs du développement économique, social et culturel, elles sont présentes dans quasiment l'ensemble des secteurs d'activité et représentent 10% de l'emploi privé. Dans les Hautes-Alpes, elles font partie intégrante de l'économie. Elles sont parfois premières en matière de services aux populations, de soins, d'éducation, de culture ou de sport. Elles sont également présentes dans l'agriculture, l'alimentaire ou l'énergie. Elles sont des entreprises avec des droits et des obligations concernant leur fonction employeur et leur gestion. Mais pourtant, elles occupent encore aujourd'hui une place mineure dans le débat public, loin, bien loin derrière d'autres problématiques. Peut-être que la multiplicité des formes associatives joue en leur défaveur, qu'une prise de parole unique paraît complexe. Peut-être aussi qu'elles sont une expression évidente d'un modèle de société qui est remis en cause, tellement évidente qu'elle paraît ne pas avoir à se justifier. Pour défendre les associations qui sont au cœur de notre quotidien et démontrer qu'elles peuvent se faire entendre, un groupe de responsables a investi l'UDES et conduit depuis quelques mois une mobilisation qui vise à sensibiliser sur les difficultés actuelles de ces structures. Dernier événement en date, la signature avec le président de l'Association des maires de France, Jean-Michel Arnaud, pour la déclinaison d'une charte d'engagement réciproque entre les associations, l'État et les collectivités. Autour de la table, pour aborder le sujet, Jean-Claude Hérault, président de l'UDES, Amandine Fantoni, chargée de mission de l'ADSCB, Myriam Jamal, coordinatrice du collectif des actions d'utilité sociale, Gérard Ladoux, président du Secours Populaire Français, Simon Vitorge, chargé de mission à Mobilidé. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Avant d'entrer plus en détail sur la question associative et cette mobilisation, je vous propose néanmoins un rapide retour sur les actualités de l'ESS pour cette rentrée 2016. Actu numéro 1, le réseau Hospitalité, relié au réseau international City of Sanctuary, organise le 17 septembre la fête Oasis au CMCL de Gap de 12h à 18h. Un événement pour, je cite, « dépasser les sentiments de peur et de méfiance qui se font jour ». Repas partagé, divertissement, échange. Rendez-vous le 23 septembre prochain pour la fête européenne de la mobilité et sa grande vélo-parade gapençaise. Soyez nombreux à 18h30 devant la gare SNCF. Un apéro viendra clôturer la promenade et vous pourrez même contribuer au diagnostic participatif sur la cyclabilité de Gap. À l'occasion de la célébration de son 70e anniversaire, l'UDAF organise une journée festive à Gap au CMCL le 24 septembre de 13h30 à 18h. Intitulé « Famille en fête », cet événement sera l'occasion de nombreuses animations proposées par les adhérents et les partenaires de l'UDAF. Enfin, comment ne pas parler des expositions d'art contemporain qui auront lieu à Serres, organisées par Serres les Arts les 23, 24 et 25 septembre prochains. Durant 3 jours, une vingtaine d'artistes vont investir les lieux inattendus du village historique. Dessins, peintures, sculptures et photographies y seront représentés. Et tout de suite, une petite pause musicale avec le groupe Bad Bad Not Good et le titre Heaven.
Yeah.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Entreprendre Autrement, l'émission qui parle de SS dans le département des Hautes-Alpes. Notre thématique aujourd'hui, c'est la mobilisation des associations alpines. Alors avant de revenir plus en détail sur cette mobilisation, sur le pourquoi de cette mobilisation, Jean-Claude, peut-être tu veux faire un point d'étape sur où on en est.
Un point d'étape. On a eu un été extrêmement actif puisqu'on a rencontré... notamment en juillet, la plupart des élus. Dernièrement, nous avons rencontré le délégué départemental à la vie associative qui avait été mandaté par M. le préfet des Hautes-Alpes pour recevoir notre délégation et pour nous écouter sur nos propositions. Nous avons sorti un tract, des affichettes, un petit badge qui reprend jamais sans notre asso. Je sais que dans le cadre des forums de rentrée organisés par le monde associatif et les collectivités locales, il y a eu également pas mal d'endroits où il y a eu des mobilisations, des diffusions de tracts. Et maintenant, il faut qu'on fasse un bilan. Dernièrement, tu le disais tout à l'heure, nous avons... écrit, co-signé avec le président de l'Association des maires de Hautes-Alpes, un courrier qui a été adressé à tous les décideurs, notamment le conseil régional, le conseil départemental et la préfecture des Hautes-Alpes. Et nous attendons maintenant, nous espérons, dans le cadre du congrès des maires des Hautes-Alpes qui se déroulera le 30 septembre au Quattro à Gap, nous espérons à ce moment-là pouvoir mobiliser les élus, les maires, parce que c'est eux, et les présidents de communautés de communes, c'est eux que nous souhaitons mobiliser. Donc on est en plein travail. Le 22 septembre, nous avons une nouvelle réunion du comité de pilotage, puisqu'on a mis en place un comité de pilotage qui organise l'action du monde associatif, et on verra bien de ce comité de pilotage ce qui pourra ressortir. Mais il est évident qu'il faudra passer à une vitesse supérieure si on veut être entendu, et notamment travailler à l'organisation d'une initiative avant l'hiver qui pourrait être une initiative qui mette en valeur d'une façon départementale, d'une action départementale qui mette en valeur tout ce monde associatif.
Et du coup, ça serait intéressant que les participants de l'émission d'aujourd'hui reviennent chacun sur les raisons de leur engagement. Qui veut prendre la parole là-dessus, peut-être pour dire... Myriam ?
Oui, la raison première, c'est qu'un constat, principalement au mois de juin, que de nombreuses associations étaient menacées, le collectif en faisait partie. Il a été important de se retrouver, de lancer un peu... une dynamique de solidarité pour mesurer aussi les impacts sur le territoire des Hautes-Alpes que pourront avoir dans l'immédiat ces problèmes financiers. Parce que derrière ces associations, c'est l'implication et le travail de bénévoles, de salariés sur de nombreuses années qui est remis en cause et qui peut être rapidement menacé. Alors il y a une problématique financière, mais il y a aussi une mauvaise prise en compte de ce qu'apportent les associations sur le territoire. Et pour moi, la première raison de participer à cette mobilisation, c'est de mieux faire connaître et comprendre ce que font les associations sur le territoire pour tout un chacun, et la dynamique citoyenne aussi que ça porte auprès du grand public, des institutions et des politiques.
D'accord. Gérard, peut-être que...
Oui, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai pris conscience, comme Myriam, parce que effectivement, on a tendance un peu à se refermer sur les problématiques de son association. Et en fait, dès qu'on commence effectivement à avoir des rencontres et autres, on se rend compte que on partage pratiquement tous les mêmes problématiques. Alors, en ce qui me concerne, ce qui m'importe essentiellement, et ça fait vraiment partie de l'objectif de l'UDES, c'est d'un moment donné de sensibiliser, de fédérer, et de faire en sorte que les associations, à leur tour, tout de même s'engagent par rapport, effectivement, à la défense même. Pour certains, c'est une raison presque vitale. Donc, je pense qu'on est là pour amorcer la pompe, mais par la suite, il convient que le mouvement associatif ait réellement conscience, effectivement, des difficultés de l'ensemble de ce monde-là.
Et ces difficultés, tu en parlais, Myriam, mais du coup, elles ne sont pas que financières, c'est-à-dire qu'on est sur une problématique plus large, peut-être, je ne sais pas, Amandine.
Eh bien, ouais, selon nous, effectivement, on vient là rechercher ou re-questionner le partenariat avec les institutions publiques. Et si certes, un partenariat, on a besoin, les associations à un moment donné de moyens matériels ou financiers. Mais avant tout, le partenariat pour nous, c'est un dialogue, c'est de la confiance, une compréhension mutuelle. Et aujourd'hui, tout ça est remis en question. Juste pour citer quelques chiffres que je trouvais intéressants sur cette question financière, aujourd'hui, on vient la subvention publique, pour nous, c'est vraiment synonyme de partenariat, puisque y a pas de... l'association est indépendante, elle a un projet qu'elle propose, et vu que c'est d'intérêt général et que l'institution publique défend cet intérêt général, on se rencontre à ce moment-là et on est financé. Aujourd'hui, la subvention publique, entre 2005 et 2011, le montant total des subventions publiques dans le budget des associations a baissé de 17%, alors que la commande publique, elle, a augmenté de 73%. Donc clairement, ces chiffres montrent que le partenariat, il évolue. On n'est plus sur du donnant-donnant, on est vraiment sur l'institution publique qui demande aux associations d'aller vers quelque chose.
Voilà. D'accord. Simon, tu voulais rajouter ?
Oui, en fait, je crois que ça va tout à fait dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y avait un lien avec les collectivités, les associations avaient la chance de pouvoir proposer quelque chose que les collectivités ne pouvaient pas mettre en place grâce à des salariés, grâce à des bénévoles. Aujourd'hui, en nous pressant un peu, et on se rend compte qu'on passe énormément de temps sur des dossiers de subvention, et en fait, on n'arrive plus à vraiment faire notre travail. Et donc il y a vraiment ce lien avec les collectivités qui est en train de se casser. Aujourd'hui, je pense que par rapport au regroupement qu'on fait et aux actions qu'on prévoit, je pense qu'on est en train de les prévenir, les collectivités, de leur dire attention, là vous êtes vraiment en train de tirer sur la corde, et le jour où on va se réveiller, bah, ça sera peut-être un peu trop tard. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Moi, c'est pour ça qu'on a rejoint aussi le collectif.
Gérard, tu voulais réagir ?
Oui, simplement pour ajouter et avoir du concret. En ce qui nous concerne, par exemple, en matière financière, il faut savoir qu'on injecte au niveau de l'économie ou alpine environ 900 000 euros. C'est-à-dire le bénévolat, ce que nous recevons comme produit alimentaire de la part de la communauté.
Au Secours Populaire, tu veux dire.
Au Secours Populaire, ouais, excusez-moi.
Non, mais parce que
je reprécise.
Ça veut dire que pour une structure déjà,
c'est... Une structure. Le Secours Populaire qui rayonne sur l'ensemble du département, c'est 900 000 euros environ que l'on injecte effectivement dans l'économie. Alors c'est lié effectivement au bénévolat, c'est lié au fait qu'on reçoit aussi des produits de la communauté européenne, c'est lié à toutes les actions qu'on peut faire de collecte, d'animation et autres. Donc, ça représente tout de même une somme non négligeable, parce qu'on présente toujours les associations comme étant des associations dépensières. Or, nous, on apporte effectivement, et on n'est pas les seuls, loin de là, à apporter dans l'économie. Et en contrepartie, l'ensemble des subventions qu'on reçoit de la part de toutes les communautés ou de l'État, ça représente 35 000 euros. Donc, c'est ce fameux coefficient multiplicateur qu'il convient de mettre en exergue.
Je vous entends tous, en tout cas, vous êtes vraiment sur l'interpellation, en tout cas, ce qu'on entend des collectivités, ou en tout cas de l'acteur public de manière large. Est-ce qu'il s'agit uniquement de ça? Est-ce que la sensibilisation, elle est uniquement vers des élus, vers des...
Moi, je crois que, justement, peut-être rappeler aux auditrices, aux auditeurs, parce que c'est passé un peu inaperçu, il y a un peu moins d'un an, c'est très exactement le 29 septembre 2015, le Premier ministre s'adressait au ministre, au préfet de région, au préfet de département, et voilà ce qu'il leur indiquait. Je lis. Dans un contexte de réforme des collectivités territoriales, de reconfiguration de leurs compétences et de transformation de l'action territoriale de l'État, il est indispensable de conforter le rôle des associations dans la construction de réponses originales et pertinentes aux enjeux actuels. La charte des engagements réciproques, c'est de ça que je voudrais vous parler maintenant, signée le 14 février 2014, qui a été signée par l'ensemble des acteurs des collectivités territoriales, régionales et autres, donc qui a été signée le 14 février 2014, a défini les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales et des associations en matière de co-construction des politiques publiques. Elle pose des règles de partenariat nouvelles qui doivent être transformées en principes d'action. Je pense que tout est dit, encore faut-il le mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure qu'on avait rencontré dernièrement le délégué départemental à la vie associative, et qui représente Monsieur le Préfet. On m'a bien confirmé qu'il était bien, il avait le pouvoir du préfet des Hautes-Alpes, parce que le préfet, voilà ce que le demande le Premier ministre, je vous demande d'une part de décliner la charte des engagements sur les territoires de manière adaptée, pour chaque secteur d'activité, d'autre part, je souhaite que vous favorisiez dans la durée le soutien public aux associations concourant à l'intérêt général. dire, moi je signe dès demain ce type de propos, sauf qu'aujourd'hui, entre les discours politiques, les prises de position nationales et la mise en œuvre sur le terrain, on est à des années-lumière. Donc il me semble que l'UDES, ça a été rappelé, est là pour pas faire à la place des associations, bien évidemment, est là pour coordonner l'action des associations, pour les aider, mais est là aussi pour exiger des partenaires publics, des décideurs du département, la mise en œuvre de la déclinaison de cette charte d'engagement réciproque dans le département des Hautes-Alpes. Je pense que là est notre combat. Mais bien sûr que pour arriver à un résultat important, il va falloir que le monde associatif se mobilise. Et aujourd'hui, même s'il y a des débuts de mobilisation, je dois bien reconnaître que, d'une part, la mobilisation départementale a quand même du mal à s'embrayer. Il faut être objectif. Certaines associations, on ne les a pas encore vues. Bon, on a vu le monde sportif qui est mobilisé, on a vu certains acteurs qui sont autour de cette table qui se sont mobilisés, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui n'ont pas levé le petit bout du doigt alors que je sais qu'ils ont des difficultés. Donc il faut absolument que ce monde associatif se mobilise, se fédère autour d'actions communes départementales pour vraiment mettre la pression. Ça, c'est indispensable, mais c'est urgent parce que moi, je prétends, mais je peux me tromper, qu'il y a certaines associations que je ne citerai pas parce qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on les cite, qu'ils ne vont pas finir l'année, quoi. Il y en a certaines qui ne termineront pas l'année sans dégâts l'année 2016. Et alors 2017, si rien se passe d'ici là, ça va être, moi je parle souvent de plan social, ça risque d'être assez dramatique pour notre département.
Est-ce que on vous parlait, donc on parle, il y a cette histoire de charte, on a vu qu'il y a eu ce courrier commun avec l'Association des maires de France. Finalement, est-ce qu'un texte aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'assez aérien, d'assez abstrait ? Quel rapport vraiment dans le concret ? Quel aspect contraignant possible aujourd'hui sur un texte comme celui-ci ?
Alors, moi, je pense qu'il y a un côté abstrait, mais qui est important, avant le côté vraiment pratique, c'est de définir les valeurs qui nous rejoignent, et institutions publiques, et entre associations. Donc, c'est déjà rappeler ça, et je pense que l'appropriation de ce débat-là et la mobilisation des associations, ça passe par là. Donc, c'est des valeurs de solidarité, de démocratie. Quand on voit de plus en plus de collectifs qui sont en train de se monter et de trouver des nouvelles formes d'organisation pour vivre cette démocratie et cette organisation, là, on voit que les associations, c'est vraiment des laboratoires citoyens d'innovation, etc. C'est des valeurs de non-lucrativité, de bénévolat. Donc, c'est absolument pas uniquement la question financière qui nous rapproche. La liberté d'association sans discrimination. Donc, la charte, je pense qu'elle rappelle tous ces engagements-là autour de l'intérêt général sur ce qui nous relie. Et c'est important qu'on en discute et qu'on se mette d'accord là-dessus. Ensuite, je pense qu'il y a des engagements très concrets. Au niveau, d'une part, des associations, c'est bien être attentif à cette vie démocratique au sein de sa structure, faire en sorte que les adhérents puissent accéder à la gouvernance, au pouvoir, que les projets mis en place répondent véritablement à des besoins, limiter le cumul des mandats, etc. On est vraiment dans la vie démocratique. Et au niveau des collectivités, c'est le rapprochement entre tout ce qui est formation des bénévoles, reconnaissance de l'engagement associatif, promouvoir et faciliter l'engagement bénévole de tous sans distinction ni d'âge ni d'origine sociale. Un soutien financier dans la durée pour que les associations, elles, puissent vraiment réaliser leur action. Simplifier les procédures autant que possible pour qu'on soit vraiment sur le terrain et pas dans les papiers. Finalement, les associations, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est des bénévoles, c'est des citoyens, et ça fait le lien entre le terrain, les besoins du territoire, avec le politique. Et c'est là où on a du débat. Voilà.
Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'aussi, je pense que de promouvoir cette charte, que chaque acteur s'en saisisse, la lise, ça peut au quotidien permettre de retravailler le lien entre les associations et les institutions, où finalement le dialogue il s'étiole, où quand on fait un dossier de demande de subvention, on a des comptes à rendre, mais on est de plus en plus dans des critères qui viennent des institutions, et chacun construit ses critères, et on échappe le projet de la structure dans sa globalité. Même s'il il peut y avoir des obligations par rapport à certains financements, mais échappe le projet global, le projet projets associatifs et l'ensemble des activités que peuvent porter les structures. Et souvent, les techniciens ou les politiques, il y a aussi des choses à dire dans le milieu associatif, mais perdent le regard un peu juste sur ce qu'est une association et ce qui s'y passe et comment on peut coopérer et dialoguer entre l'institution et l'association.
Oui. Moi, je voudrais intervenir aussi, c'est qu'on ne peut pas être uniquement sur-théorisé par rapport à ça. À un moment donné, il faut être effectivement au contact du terrain. C'est ce que je me suis évertué de faire lors du forum en Brun, où il y avait une centaine d'associations. Le forum des associations. Donc j'ai passé l'après-midi complète à rencontrer pratiquement tous les dirigeants. Et ce qui m'a étonné énormément, c'est que, en fait, Jean-Claude vient de le dire, tout de même, cette charte, elle n'est pas sortie d'hier, hein, février 2014. De la part des présidents d'associations ou des dirigeants, ils n'en avaient pas connaissance. Mais plus grave encore, j'ai rencontré aussi des élus, qui ne la connaissaient pas non plus. Donc c'est vraiment le genre de document qui, à mon avis, donne vraiment des lignes qu'on ne peut que partager, des objectifs qu'on ne peut que partager, mais encore faut-il qu'on se donne les moyens. Alors c'est l'UDES qui l'a fait. Je me demande si effectivement d'autres qui avaient tout de même cette vocation, je pense en particulier à l'État, n'auraient pas dû organiser des états généraux ou quelque chose un peu similaire pour que ce texte puisse vivre.
Moi, je pense que par rapport à ce qui s'est dit au niveau de l'UDES, donc en fait aujourd'hui, il y a une vraie alerte au niveau des politiques qui a été faite, au niveau des collectivités, c'était ça qu'on disait, c'était le lien avec les collectivités, leur dire qu'ils sont en train de le casser. Et je pense que ce que j'entends dans vos interrogations, Jean-Claude et Jean-Joël, c'est vous êtes un peu étonné qu'on n'en parle pas plus que ça au grand public, en fait. Puisque nous, en tant qu'association, suivant le type d'association, mais on est quand même beaucoup en lien avec le grand public. Moi, je voudrais dire que aujourd'hui, on est quand même dans un climat national au niveau social qui est assez tendu. Et au sein des associations, nous, je sais qu'au niveau de la collégiale de Mobilidé, on réfléchit, mais on réfléchit vraiment sur quelle manière on va interpeller le grand public, parce qu'on ne va pas avoir le droit à 5 coups, quoi. Donc, peut-être que ça peut se faire assez rapidement de faire des conférences de presse, alerter les politiques, parce que là, on est dans un jeu qu'ils connaissent. Et voilà, pour nous, on regarde ça vraiment d'en bas, on se dit que c'est un jeu où, OK, on les alerte, on les prévient. Sauf qu'eux, ils se disent, bon, c'est vrai, gentil. Et sauf qu'on va devoir passer à l'action pour prévenir le grand public, mais aussi un peu pour les effrayer. Parce que si demain, toutes les crèches elles décident de fermer une journée ou deux journées, bah, la majorité des foyers ne pourront pas aller au travail. Donc si demain, personne ne peut aller au travail, bon bah voilà. Et donc, dans quelle manière on va le faire? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se retrouve avec le public qui se tourne à dos des associations en disant, bah, en fait, vous êtes là pour ça, quoi. Donc en fait, je pense que je suis d'accord qu'il y a des échéances. On vient de se prendre qu'on est un peu tous aussi secoués par la région où en fait, personne n'a de nouvelles. Mais en fait, on est un peu en train de réfléchir aussi à se dire, OK, on va passer à l'action, mais on réfléchit de quelle manière, parce qu'il ne faut pas se rater, quoi.
Oui, je crois que tu as complètement raison. C'est pour ça que, moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, qui est un comité de pilotage qui peut être d'ailleurs élargi au maximum. Hein. Tout le monde peut y participer. En priorité, bien sûr, le monde associatif adhérent à l'UDES, mais voire au-delà. Il faut que ce comité de pilotage qui est programmé, je l'ai dit, avant la fin septembre, puisse prendre des décisions. Et pour ça, il faut que vous en parliez dans vos associations de façon démocratique et que vous veniez avec des propositions qu'on puisse mettre en œuvre dès le mois d'octobre. Parce que ce qui va se passer, à mon sens, après le congrès des maires, ce que j'ai cru décoder, jusqu'au congrès des maires, il va pas se passer grand-chose au niveau... Il n'y aura pas d'initiative de l'État. Par contre, ce qu'on m'a laissé entendre, c'est qu'il pourrait y avoir une initiative de l'État au mois d'octobre, début octobre, qui prendrait la forme... Alors, tu parlais d'États généraux, moi, on m'a parlé de table ronde. Il faut que cette table ronde soit l'initiative de l'État. C'est à lui à organiser la discussion autour de cette charte. Mais il faut que, s'il y a une table ronde, ce ne soit pas uniquement une démarche administrative, qu'on vienne autour d'une table, on se parle, on se dise certaines choses, et puis on s'en va, quoi. Donc il faut vraiment que cette table ronde se passe sous la pression, entre guillemets, du monde associatif, parce qu'il y a vraiment des urgences à aboutir à des résultats. J'ai participé dernièrement à une réunion où madame la vice-présidente du conseil régional, maire d'Embrun, intervenait, bon, en gros, et me répondait indirectement suite à l'action qu'on mène. En gros, ce qu'elle disait, ben, pour l'instant, on n'a pas pris contact avec vous parce que il fallait qu'avant on puisse définir notre politique régionale en direction des associations, mais on est sur le point d'aboutir, et une fois qu'on aura abouti, que notre réflexion aura abouti, on vous sollicitera. Sauf que moi, je me dis, si on attend encore un peu, ça risque d'être trop tard, parce que entre temps, il y aura des structures associatives qui seront plus là pour en parler. Voilà.
Moi, je voulais juste vous poser une question, parce que donc l'UDES, c'est l'économie sociale et solidaire, donc pas uniquement les associations. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité de l'économie sociale et solidaire par rapport à cette crise ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des réactions, par exemple, chez les autres familles statutaires que sont les coopératives ou les mutuelles ? Et est-ce que, par exemple, le niveau régional ou national réagit un peu sur ces questions ?
Non, je suis d'ailleurs un peu surpris. Moi-même, je suis mutualiste. Hein. Mais dans le monde de la mutualité, j'étais pendant 2 jours à Paris, ces questions-là ne sont absolument pas évoquées, même au plan national. Bon, j'ai vu qu'à la fête de l'UMA, dernièrement, le week-end dernier, la présidente de la CNCRES, c'est-à-dire le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y avait un stand de l'ESS à cette fête, bon, est intervenue. D'ailleurs, je le dis au passage, si vous allez sur le site internet de l'UDES 05, vous aurez l'interview. Je fais un peu de la pub pour notre site quand même, parce qu'on fait quand même un travail important. Et vous aurez l'interview de la présidente nationale. D'ailleurs, y compris, je me posais la question aujourd'hui, mais on en parlera lundi, puisqu'on a un conseil d'administration de l'UDES lundi, si on ne devait pas inviter cette présidente nationale, parce que vraiment, qui vient de Bretagne, en parenthèse, hein, qui est issue de la Bretagne, elle porte un discours qui est extrêmement proche du discours qui est porté par l'UDES 05. Donc je me dis que finalement, on est peut-être dans le vrai dans ce département, et qu'on pourrait se faire appuyer par la présidente nationale.
Oui, Gérard.
Oui, je voudrais revenir un petit peu. Bon, Jean-Claude, bien sûr, intervient au niveau institutionnel et c'est très intéressant. Moi, je voudrais revenir sur des choses, effectivement, un petit peu plus concrètes. C'est, effectivement, on a parlé de beaucoup de reconnaissance et malgré qu'on y ait mis, on est intervenu pour dire qu'il n'y avait pas que ça, mais je pense que le problème financier est important, mais qu'il y a un problème de reconnaissance de manière générale. La reconnaissance, ça passe avant tout par la moindre politesse, le moindre... On parle de civisme. On impose effectivement à des jeunes et autres des formes de civisme que des élus ou des représentants de l'État ne s'astreignent pas. Personnellement, au niveau du Secours populaire, pas chez jamais personnel, au niveau du Secours populaire, j'ai invité monsieur le préfet, j'ai invité monsieur le président du conseil départemental. De manière plus locale, j'ai invité Madame le maire d'Embrun à voir nos locaux pendant que nous recevons effectivement des personnes accueillies, qui peuvent être de toutes origines et tout, pour montrer les conditions dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire que là, on ne théorise pas. Vous avez à un moment donné, lorsque nous étions dans des locaux à Gap, des queues dehors où les gens pratiquement se battaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester dehors, ils voulaient passer devant, etc. Donc c'est ça des réalités, c'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas dans un monde de bisounours, etc. Donc les grandes difficultés. Et il n'y a qu'un préfet qui est venu à Gap pour voir nos locaux, on était dans des locaux réellement insalubres. Et à la suite de ça, ben, grâce à son aide, nous avons pu démarrer l'acquisition de nouveaux locaux qui correspondent vraiment plus à nos besoins. Mais ce que je regrette, c'est que les élus, encore là, le président du conseil départemental, me renvoie à un fonctionnaire pour me recevoir. C'est pas ce que je demande.
Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci de vos témoignages. On va croiser les doigts pour que cette mobilisation porte des fruits. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et merci à Christophe pour la technique. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.